Exactement, merci Monsieur Lacorte. On va pouvoir passer au temps d'échange. Donc, avant de vous passer la parole à ceux qui lèvent la main, pour l'instant, il y a une personne qui a levé la main. Il y avait, alors voilà, il y a trois personnes qui lèvent la main. On a déjà une trentaine de questions via le Slido, donc ça marche plutôt bien. Donc, je vous propose d'en remonter déjà quatre. Quatre questions. Alors, on va passer. Voilà, on a 32. Et donc, on a sectionné avec Madame Hautebourg. On a sectionné quatre. Bien sûr, on en présentera d'autres. Et si on n'a pas le temps de toutes les traiter, lors de ces deux temps d'échange, elles seront traitées de toute façon via le site Internet. Voilà. Donc, première question. Donc, je m'adresse à l'ensemble des intervenants de la DGAC. Monsieur Lacorte, je vous laisse réorienter ensuite les questions selon les différents services concernés. Première question. L'allongement de la piste permet-elle également d'augmenter la hauteur de survol de Rosay, donc au décollage, moment le plus bruyant, et donc de limiter ce survol, voire de l'éviter en prenant de nouvelles trajectoires? Voilà. Première question. Je pose peut-être. Voilà, on va peut-être les traiter les unes après les autres, ces questions
Oui.
à l'écrit.
Alors, Maxime, je vous propose de répondre à la première question. Je ne sais pas si vous
Bien sûr.
m'entendez. Oui.
On vous
Donc,
entend bien.
alors sur l'allongement de la piste et le décalage des seuils permet aussi effectivement d'améliorer un peu la situation sur la commune de Rezé pour les vols à l'atterrissage. En revanche, c'est vrai que sur les vols au décollage, pour ceux des décollages qui s'effectuent donc vers le nord, on est dans une on survole des zones qui sont très densément construites et on ne peut pas on n'a pas moyen de trouver une nouvelle trajectoire comme on le fait par exemple à la Chevrolière qui éviterait les zones construites. Donc, le parti qui a été pris, c'était de ne pas modifier les trajectoires de décollage pour cette raison, et aussi pour une raison que l'État a bien entendue, qui est que lors de la concertation de 2019, la plupart des participants, et même de manière quasiment unanime en réalité, ont dit qu'ils ne souhaitaient pas qu'on joue un territoire contre un autre comment dire, bascule toutes les nuisances liées à l'aéroport sur un seul territoire au profit d'autres territoires. Ça, c'est quand même un enseignement fort et l'approche que nous avons retenue aujourd'hui, avec l'ensemble des mesures que je vous ai présentées, c'est justement de traiter de manière ajuster l'ensemble des territoires en essayant que chacun ait un petit mieux par rapport à une situation sans le réaménagement et où le trafic croîtrait sans que voilà sans que on ait mis en place une stratégie de lutte contre le bruit. Donc voilà la raison pour laquelle sur Rezé on ne peut pas modifier les trajectoires au décollage.
Donc,
Après, je vois, oui.
deuxième question, pourquoi ne pas aménager les autres aéroports de la grande région, Rennes, Angers, Brest, Le Mans, Cholet, etc. Il est important de partager les nuisances au lieu de tout concentrer sur Nantes.
Alors, ça, c'est un sujet qui était effectivement revenu pendant la concertation de 2019. L'État n'a pas la possibilité juridique d'orienter le trafic sur une plateforme ou sur une autre. En réalité, on est sur un marché qui est libre, et ça, c'est un marché enfin, qui répond à des règles communautaires hein, fixées par le droit de l'Union européenne. Et donc, les compagnies s'orientent librement sur la plateforme de leur choix et qui correspond à leurs besoins. Alors, au-delà de ça, quand même, il faut bien avoir en tête que finalement, l'aéroport, il irrigue, il dessert une zone de chalandise qui est importante, qui est quand même la métropole, la région Pays de la Loire et un peu au-delà, évidemment, aussi un peu le Grand Ouest. Et donc, il est, de ce point de vue-là, situé de manière cohérente avec les besoins des territoires. Voilà. Donc, ce sont les raisons pour lesquelles aujourd'hui l'État ne croit pas au développement d'autres plateformes de moindre importance. Cependant, l'aéroport de Rennes sera développé et l'État a accompagné dès 2019 hein, le développement de cet aéroport par la cession de terrain que nous avons faite auprès de l'aéroport de Rennes. Et puis, je ne sais pas si vous m'entendez.
Très bien, on vous entend
Oui,
très
d'accord,
bien.
très bien. Et puis également aussi, pour inciter finalement à mieux répartir les voyageurs entre les aéroports, on a favorisé ce qu'on appelle la mise en réseau des aéroports. C'est une mise en réseau non pas par les airs, mais par la terre avec des liaisons ferroviaires plus performantes entre les aéroports. Et là-dessus, l'État a signé deux contrats dès 2018. Si je ne m'abuse, avec la région, ou 2019, avec, non, mais je crois bien que c'est 2018, avec la région Pays de la Loire et avec la région Bretagne, de façon à améliorer la desserte ferroviaire des aéroports du Grand Ouest. Donc, la question qui est posée est une très bonne question, je trouve, parce qu'elle permet à la fois de montrer la complexité que nous devons gérer, le fait qu'on ne peut pas dire à une compagnie aérienne « tu atterris à tel endroit », mais en même temps, elle pose de bonnes questions, puisque justement, on peut, au travers de l'amélioration de l'offre ferroviaire, inciter les usagers à se rerouter vers d'autres aéroports. Et nous avons d'ailleurs, comme je le disais, pris des mesures pour que l'aéroport de Rennes puisse se développer à cet effet. Alors,
une autre question donc sur l'appel d'offres. Sur quelle base le concessionnaire peut-il s'engager sur la neutralité carbone ?
Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, mais en tout cas, nous demandons au concessionnaire, au titre de son futur contrat de concession, de prendre l'engagement qu'il atteindra la neutralité carbone. Et donc, la neutralité carbone, elle sera certifiée, par exemple, par ce que nous appelons le dispositif ACA. Donc, c'est. Je sais pas, j'ai plus l'acronyme en tête. Merci. C'est l'Airport Carbon Accreditation, désolé. Donc c'est un processus qui est certifié, donc c'est réalisé par un tiers, et le tiers vérifie sur la base du fonctionnement de l'aéroport, sur la base de la politique d'exploitation qui est mise en œuvre par le concessionnaire, l'ensemble des émissions qui sont émises par l'aéroport et l'ensemble des mesures qui sont prises pour les réduire, voire les neutraliser. Et donc à partir de là, on peut avoir une étude qui montre quels sont les efforts faits et les résultats atteints par l'exploitant. Et donc c'est bien ce que nous avons demandé à nos candidats aujourd'hui à l'appel d'offres et que fera demain notre futur concessionnaire. Alors je citais l'Airport Carbon Accreditation. Il existe d'autres dispositifs d'accréditation carbone. L'État n'a pas une préférence particulière pour celui-ci. C'est celui qui est connu et qui est déjà mis en œuvre par quelques aéroports aujourd'hui sur la planète. Et bien évidemment, si on a un dispositif au moins aussi performant que l'Airport Carbon Accreditation, le concessionnaire pourra l'appliquer.
Merci. Dernière question parmi celles qu'on prend là avant de passer aux questions à l'oral. Cette double approche, donc la double approche qui a été présentée, est-elle guidée par une nécessité financière, à savoir l'abandon de l'ILS qui sécurise l'approche ?
Alors, la réponse est clairement non. Quand on parle de sécurité, la sécurité, c'est un impératif. C'est vraiment une des toutes premières missions, un des plus gros enjeux que porte la DGAC, la Direction générale de l'aviation civile. Il n'est pas question de conditionner la sécurité à des enjeux comme ça financiers. Donc, la réponse est clairement non. Et de même, l'ILS n'est pas abandonné. En fait, aujourd'hui, la double approche, son seul objectif, c'est vraiment de limiter les nuisances pour les populations survolées. Donc je vous l'indiquais, on aura donc une approche dans des accès et puis une approche dans l'axe qui, elle, nécessitera un système de guidage vertical. Parce que l'approche dans l'axe, elle sera utilisée quand les conditions météorologiques seront mauvaises. Donc il faut que le pilote puisse être guidé, que l'avion puisse être guidé et atterrir dans l'axe de la piste en toute sécurité. Et donc il faudra mettre en place ce que nous appelons un système de guidage vertical. L'ILS que mentionne monsieur ou madame, je ne sais pas, est un exemple de système qui permet de sécuriser les approches par météo dégradée, il en existe d'autres.
Merci. On va pouvoir passer à des questions qui ont été posées, enfin qui des mains levées. Il y a déjà une dizaine de mains levées. Attention, j'avance un peu trop vite, désolé. Donc on a une première main levée. Je crois que le premier à lever la main, c'était Monsieur Paolo Ferreira de. Il me semble que vous êtes Donc vous allez pouvoir activer votre micro. Il me semble que vous représentez le COSETA, mais je vais vous laisser vous présenter. Allez-y, monsieur Ferreira. Alors, normalement, votre micro est activé. Ah non, voilà, vous pouvez l'activer. Je crois qu'on a.
On n'entend pas.
On entend pas, non. On va peut-être passer à quelqu'un d'autre en attendant, on lui en donnera la parole par la suite. Donc la deuxième personne, c'était Tugdal de Lhasa. Donc je vais vous laisser.
Bonjour, vous m'entendez bien?
Très bien, on vous
Parfait.
écoute.
Donc en fait, c'est deux questions en une.
On va vous laisser vous présenter aussi, s'il vous plaît, merci.
De Assa, je suis particulier, j'habite sur la commune de la Chevrolière, directement impacté par les trajectoires qui ont été modifiées au niveau de la commune de la Chevrolière pour les phases de décollage, et essentiellement décollage, puisque c'est là qu'on a le plus d'impact au bruit. Donc j'avais une double question finalement en une. Les études de bruit que vous avez présentées, de ce que je comprends, sont essentiellement des études de bruit à l'atterrissage. On ne voit que peu d'études, y compris dans dans tout ce qui a été produit en termes de documentation jusqu'à maintenant, par rapport à la partie décollage. Est-ce que c'est une volonté affiché de ne pas publier ces chiffres et les données liées à la partie analyse de bruit au décollage? Et deuxièmement, concernant la trajectoire de la Chevrolière, sur la nouvelle trajectoire qui est envisagée, qui en fin de compte ne modifie que de quelques degrés et va globalement impacter un peu plus Généthon plutôt que le Bignon, avez-vous envisagé d'autres trajectoires plus élargies, telles que forêt de Machecoul, forêt de Touvois?
Très bien. Merci monsieur Maxime, je ne sais pas, je vous propose de
Allez-y,
répondre
oui, allez-y, c'est bien de
directement.
répondre directement.
Et on prendra ensuite la question de Monsieur Ferreira si on arrive à avoir le son. Monsieur de Lassa, donc alors je vais vous répondre directement sur la première question, sur les études de bruit. On pourra les voir après d'ailleurs, hein, mais les études de bruit prennent bien sûr en compte à la fois les atterrissages et les décollages. Sinon, on n'aurait qu'une partie du problème et qu'une partie du bruit. Et enfin, voilà, ce serait grossièrement faux. Donc, on prend bien l'ensemble des mouvements à l'atterrissage et au décollage en compte dans nos études de bruit. Et on prend plusieurs horizons temporels. On travaille à l'horizon 2025, 2030, 2040, en tout cas ce qu'on aujourd'hui on anticipe de ce qui se passera à ces horizons-là. On présente ensuite des courbes de bruit qui prennent le maximum du bruit qu'on observe sur le territoire cumulé sur ces trois horizons temporels. C'est ce qu'on appelle des courbes enveloppes, mais je pense qu'on aura l'occasion, j'espère, d'y revenir par la suite au travers de questions. Vous aviez une question sur les nouvelles trajectoires de la Chevrolière, et du coup, là-dessus, je vous propose peut-être de passer ma parole. La parole à mon collègue Sylvain Ric du service de navigation qui pourra vous répondre plus précisément que moi-même. Sylvain, je
Bonjour.
sais.
Oui, bonjour à tous et à toutes. Vous m'entendez bien?
Très bien, pour ce qui me concerne. Bon.
Oui, donc je suis Sylvain Ric, là, je suis le chef du service navigation aérienne Ouest. Donc effectivement, je vous confirme que nous n'avons pas étudié une trajectoire qui irait plus vers le sud, qui maintiendrait les avions au décollage plus vers le sud, hein, qui entourerait finalement Saint-Philibert par le sud. Et la raison essentielle, c'est que ça nous générerait des difficultés de gestion avec le flux arrivé. On aurait des conflits potentiels avec le flux arrivé. Donc, c'était une option que nous avons pour l'instant, que nous n'avons pas étudiée.
Merci. On va prendre une autre question. Donc, on va essayer de reprendre la question de Monsieur Ferreira. Monsieur Ferreira, je vous laisse activer votre micro.
Oui, vous m'entendez?
Parfait.
Oui.
On vous entend.
Oui, merci beaucoup d'avoir insisté. Bonsoir. Alors, juste pour Paolo Ferreira, donc administrateur du COSETA et président de la commission santé du COSETA. Et accessoirement, donc j'ai assisté au comité de suivi auquel vous faisiez référence en introduction de la réunion. Donc je connais les éléments de langage que vous êtes en train de présenter et les.
Je n'entends
Donc,
plus.
bon, c'est d'entrer en matière, monsieur Lacorte. Juste, vous basez tout un argument en fait sur la lutte contre le bruit. Alors, du coup, j'en ai relevé un certain nombre qui me laisse circonspect. Donc, je. Telle occasion m'apporter des éléments de réponse. En fait, vous justifiez la réduction du bruit. Sur le fait que, d'une part, vous insistez sur le fait que le fait qu'on allonge la piste de 400 mètres ne permettrait pas d'atterrir, de faire atterrir les avions en courrier, donc tout ça pour répondre à un certain nombre de réactions. Je ne vois pas sur quelle base vous dites ça, d'autant plus que, ayant vécu 4 ans à La Réunion, sachez que la piste de l'aéroport Roland-Garros fait 3 200 mètres, là où l'aéroport où la piste de l'aéroport Nord-Atlantique fera 3300 mètres après l'allongement. Donc, pour moi, je trouve ça assez curieux. Deuxième chose, dans toutes les projections que vous faites, et notamment pour faire suite à la remarque que vient de faire...
J'entends pas, ça coupe, monsieur.
Des fois, il y a des coupures, des petites coupures. Donc,
Pardon. Alors, toutes les projections que vous faites actuellement sont basées sur la diminution du trafic ou alors sur une vision à 2040. Et en même temps, vous précisez que vous n'avez pas à légiférer ou en tout cas à imposer le trafic à une compagnie qui souhaiterait atterrir à tel ou tel aéroport. Il s'avère que, gardons en tête que le marché, sauf si vous me dites le contraire, en tout cas dans l'avis de publication, prévoyait plus de 140 000 mouvements, là où avant 2019, on était à 70 000 mouvements. Et sachant que dans la prévision, alors l'art de prévoir, c'est toujours extrêmement difficile, mais déjà au début de la question d'un nouveau projet d'aéroport, la DGAC prévoyait d'atteindre les 50 000 mouvements pour 2025, alors qu'on était déjà à plus de 60 000 comme approximation. Donc ça, c'est donc cette justification de la baisse de trafic, je ne la comprends pas, sachant que la cible, c'est bien les 140 000 mouvements à un moment donné, puisque l'idée, c'est bien d'amortir le modèle économique du marché que vous êtes en train de réaliser. Par ailleurs, là, c'est un petit peu technique, mais c'est pour que le décor aussi comprenne. Les cartes de bruit sont basées en fait sur un indicateur qui est le Elden, qui est un indicateur moyen qui a pour objectif de lisser finalement, enfin qui n'a pas pour objectif mais qui a pour conséquence de lisser les niveaux de bruit entre la journée et la nuit. Ce qui veut dire qu'on ne tient absolument pas compte du ressenti réel en fait de la personne qui est exposée par exemple à des passages d'avion toutes les 3 minutes, ce qui sera le cas que ce soit en double approche ou pas, ce sera le cas de toute façon.
Alors,
je vous gêne. Voilà, y a quelque chose qui m'interpelle dans vos simulations et dans les conclusions que vous portez. Par ailleurs, la double approche, contrairement au message que vous êtes en train de passer, effectivement, selon vos calculs, ils sont basés encore une fois sur des critères qui m'interpellent. Les conclusions de vos calculs, c'est que finalement, il y aura moins de personnes exposées dans des zones à moindre bruit. Donc, comme le calcul est faux, déjà, ça m'interpelle. Et par ailleurs, le message est aussi complètement faux, puisque le fait qu'il y ait plusieurs trajectoires qui vont être intégrées, donc plus qu'une approche, n'est-ce pas ? Du coup, on va exposer des personnes qui, jusqu'à présent, n'étaient pas exposées au bruit. Donc, on ne peut pas conclure qu'il va y avoir moins de personnes exposées à ces nouveaux bruits. C'est faux, hein, notamment entre Nantes et Trentemoule, le centre-ville de Trentemoule, là où j'habite. Hein, donc, on sera encore plus exposé qu'avant. Par ailleurs, les projections que vous faites ne tiennent pas compte sur l'actualisation du nombre d'habitants, sachant qu'on est sur des zones, comme vous le disiez d'ailleurs, sur lesquelles il y a plein de projets de construction. Je ne sais pas dans quelle mesure vous avez intégré aussi la population qui va arriver à un moment donné, sachant qu'on est dans une zone de construction qui est de plus en plus tendue. Donc, j'ai vraiment des doutes sur vos conclusions et sur vos projections.
Je comprends.
Je termine, j'ai plus que deux éléments, comme ça vous avez la totalité. Vous mettez également en avant en termes de protection de bruit, donc les mesures de délaissement et les mesures qui permettent l'isolation acoustique des maisons. Donc encore une fois, et comme je le disais hier, les mesures de délaissement n'a pas une mesure de protection, mais c'est une mesure de fuite, c'est-à-dire que les gens finalement n'ont qu'une seule solution qui est de partir. Ou sinon, c'est une mesure de confinement. Et vous le savez très bien que exposer les gens chez eux et les confiner chez eux, ce n'est pas une bonne chose, puisque l'OMS a aussi pointé du doigt le fait que la qualité de l'air domestique n'est absolument pas bon pour la santé. Donc finalement, ce ne sont pas un argument supplémentaire pour dire qu'on prend en compte la santé des citoyens dans ce projet. Voilà. En fait, il y a plein de sujets comme celui-ci. Et en mesure de la santé, mais j'aurai peut-être l'occasion de réintervenir, puisqu'on parle de bruit, mais on ne parle pas de qualité de l'air, on ne parle pas non plus de la pollution des nappes phréatiques qu'on est en train d'engendrer et la pollution des sols. Voilà, j'en arrête là pour l'instant. Merci beaucoup.
Merci, on va vous répondre. Monsieur Lacorte.
Oui, merci. Alors, merci, monsieur Ferrat. Vous avez abordé de nombreux sujets. Alors, merci parce que ça me donne l'occasion d'expliciter certaines choses ou de mieux faire comprendre le projet que nous portons. Ça me fait dire aussi sans doute que ce qui serait bien, c'est que dans, je ne sais pas si ce sera possible là, dans les mois qui viennent, mais que en tout cas l'année prochaine, on puisse retravailler avec les associations, dont le COSETA, je pense aussi à l'Atelier Citoyen, en tout cas, enfin, diverses associations pour prendre le temps d'expliquer nos démarches d'études, la façon dont on travaille et les hypothèses que nous retenons, et voilà, pour qu'il n'y ait pas de malentendus au moins sur la démarche technique. Donc voilà, c'est une proposition que je vous fais. J'espère qu'on pourra voir ça l'an prochain. En tout cas, vous aviez plusieurs questions. La première sur le délaissement, ce n'est pas une mesure... Enfin, on pourra y revenir après, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus parce qu'on l'aborde dans la suite de notre réunion, mais c'est une mesure que nous proposons aux personnes qui le souhaitent, et évidemment, si elles ne souhaitent pas, si elles peuvent en bénéficier, qu'elles ne souhaitent pas en faire la demande, c'est leur choix. Alors ensuite, sur la double approche, vous disiez les calculs sont faux. Bon, ça, moi, je vous laisse libre de votre appréciation, mais ce n'est pas moi qui fais les calculs. On a un service technique dont c'est vraiment le métier. Il y a beaucoup d'experts qui ont travaillé là-dessus. Et je peux simplement vous dire que ces calculs, ces modélisations sont vraiment faites selon les règles de l'art. C'est contrôlé et on pourra, là aussi, si nécessaire, de faire plus de transparence sur la méthode dont nous faisons les modélisations et dont nous aboutissons à ces résultats. En tous les cas, ce que montrent aujourd'hui ces études, ce que montrent les calculs du maître d'ouvrage et les modèles, c'est que par rapport à une situation sans projet, on épargne 26 000 personnes qui, grâce aux mesures de réduction, réduction du bruit, ne sont pas exposées au bruit. Et en l'absence de ces mesures de lutte contre le bruit, elles l'auraient été. Mais c'est assez différent de dire que le bruit n'augmente pas ou que le trafic augmente et qu'il n'y a pas de bruit. Ce n'est pas ça qu'on dit. En fait, le trafic augmentera, et il augmentera assez significativement. Mon collègue Kevin Guité l'a montré tout à l'heure. On prévoit, comme on vous disait, à l'horizon 2040, entre 10 et 11 millions de passagers par an et 77 000 mouvements. Donc, c'est une augmentation par rapport à ce qu'on observe aujourd'hui, c'est certain. En revanche, les effets, lorsque le trafic augmente, le bruit augmente, si on ne fait rien. Mais comme on rajoute des mesures de lutte contre le bruit, ça permet de maîtriser l'évolution du bruit, alors que le trafic pourra continuer d'augmenter. Et donc, voilà. Après, vous aviez des questions sur les chiffres. Je ne sais pas d'où vient le chiffre de 140 000 mouvements. Ce n'est pas en tout cas celui que nous avons indiqué. C'est pareil sur le chiffre d'un avion tous les 3 minutes. Nous n'avons pas du tout ce type d'estimation de notre côté, mais je pense qu'il faudra sans doute prendre le temps d'un atelier spécifique sur ces sujets avec les associations qui de fait ont acquis une bonne connaissance, je pense, d'un ensemble de sujets. Et je pense souhaitable qu'on puisse mieux se comprendre sur la façon dont nous faisons toutes ces hypothèses. Alors peut-être aussi sur l'allongement de la piste, vous posiez la question de savoir si on accueillait ou pas de plus gros avions. En fait, la piste aujourd'hui, elle fait 2900 mètres. D'accord ? Avec l'allongement de la piste, elle en fera 3300. C'est ce que vous indiquez, c'est mathématique. Il n'y a rien à redire là-dessus. En revanche, il y a une différence entre la longueur physique de la piste et la longueur de la piste qui est utilisée par les avions. Et c'est bien la subtilité qu'il y a dans la mesure que nous proposons. On allonge la piste de 400 mètres vers le sud, mais on la raccourcit d'une certaine manière aussi de 650 mètres vers le nord, puisqu'on décale le seuil nord de la piste. Et donc, en fait, au final, la longueur utilisable de la piste par les avions, et c'est des procédures qui sont réglementées, les pilotes ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent sur la piste, atterrir à l'endroit où ils veulent, repartir à l'endroit où ils veulent. Donc, la longueur utile de la piste, elle restera telle qu'on ne pourra pas accueillir de plus gros avions qu'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on n'accueillera pas de longs courriers. Il faut que l'aéroport puisse accueillir de longs courriers pour, comme je le disais tout à l'heure, assurer des liaisons vers l'Europe et l'international. Mais en revanche, on n'accueillera pas des avions plus gros que ceux qui, aujourd'hui, opèrent déjà à Nantes-Atlantique. Voilà pour l'essentiel. Peut-être Maxime, je ne sais pas si vous pensez que c'est le moment de revenir un peu sur les cartes. J'aimerais bien montrer les cartes qui sont en annexe et donc qui montrent le Nord-Loire pour qu'on comprenne bien ce qu'on indiquait sur les...
Les cartes de bruit, vous voulez dire ?
Voilà, les cartes de bruit.
D'accord. On va y aller...
Voilà. Voilà, merci. Donc là, vous avez, Monsieur Ferrat, mesdames et messieurs, vous avez sur votre gauche une modélisation du bruit de ce que serait la situation donc sans réalisation du projet. Donc sans réalisation du projet, on a d'une part le trafic qui continue à augmenter jusqu'à ce que l'aéroport arrive à saturation. Et comme les trajectoires doivent être, pour des raisons de sécurité, remises dans l'axe, toutes les trajectoires sont dans l'axe de la piste. Et c'est ce qu'on voit avec cette espèce de grande corne bleue qui traverse l'île de Nantes, le centre-ville de Nantes, et qui remonte assez haut sur l'Erdre. Donc ça, c'est ce qu'aurait été la situation de bruit sans réalisation du projet, en laissant finalement le trafic croître sans mesure particulière. Et ce qu'on voit sur la gauche, c'est à l'inverse, le fait qu'on a d'une part intégré dans la modélisation qui est à gauche le couvre-feu, les mesures d'infrastructure comme on l'indiquait, le décalage des seuils, l'allongement de la piste, et puis surtout la double approche. La double approche, elle se traduit comment ? Elle se traduit par cette espèce d'oreille de lapin qu'on voit sur l'île de Nantes et puis deux petites bosses comme ça sur le centre. Eh bien, comme on répartit les avions sur deux axes, en fait, on a moins de bruit, et puis surtout, on a moins de bruit qui, sur le nord et notamment le long de l'Erdre. Et donc, c'est par ces effets, si vous voulez, de répartition des avions sur, certes, des populations qui étaient peut-être pas toutes touchées jusqu'à présent, mais qui demain le sauront, mais on répartit un peu les nuisances et en même temps on les amoindrit. Voilà. Donc vous avez ici la traduction de ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure par oral. Je pense que ça se voit mieux sur une carte. Et surtout, ce qu'on voit, c'est qu'on évite quand même assez bien une partie importante de l'agglomération nantaise, comme on le voit sur la carte de gauche. Voilà pour répondre à M. Ferreira. Je propose peut-être de prendre les autres questions parce que je vois que ça, il y en a beaucoup.
On a beaucoup de questions à l'écrit, beaucoup de mains levées, ce qui est plutôt positif. Donc, bon, je vous l'annonce d'ores et déjà, je pense qu'on dépassera l'horaire de 21h qu'on s'était fixé. On fera en sorte d'avoir fait les présentations, l'ensemble, de vous avoir présenté l'ensemble des présentations qu'on souhaitait vous faire avant l'horaire de 21h pour que ceux qui doivent partir puissent quand même avoir l'information. De toute façon, je tiens à vous rappeler que le site internet du projet, vous aurez sur le site internet du projet l'ensemble de des présentations qui ont été projetées. Voilà, donc je vais maintenant passer la parole on va prendre une dernière question à l'oral. Donc je vais passer la parole à Yannick Meunier qui a levé la main.
Oui, bonjour, vous m'entendez ?
On vous entend, mais un petit peu lointain peut-être. Si vous pouvez parler un petit peu plus fort, ça serait bien. Merci.
Et de parler plus fort. Merci de me donner la parole. J'ai bien écouté ce qui vient de se dire. Alors moi, j'interviens plutôt pour mon quartier, hein, parce que chacun a son quartier, évidemment. Je regardais les courbes, justement, qui sont encore à l'écran. Vous annoncez un progrès de 90 mètres au-dessus du centre-ville de Nantes, c'est très bien, pour des gens qui sont déjà survolés à 400 mètres d'altitude. Je suis très surpris, puisque nous, sur l'île de Nantes, quartier... on va dire pré-Réoduc, futur CHU, quartier de la création, tout ça. On est, nous, à 325 mètres et vous nous proposez une amélioration de seulement 35 mètres. Alors, je trouve ça un peu fort de café parce qu'actuellement, l'été, on ne peut pas vivre les fenêtres ouvertes. Vous avez dit tout à l'heure que l'île de Nantes n'était pas concernée par le bruit modéré. Je ne sais pas d'où vous tenez cette information. Je vous annonce que c'est du bruit fort. Donc, je ne sais pas où vous prenez vos informations sur ce sujet. En tout cas, cette différence de traitement entre le centre-ville et l'île de Nantes est d'autant plus surprenante que la population de l'île de Nantes explose avec des constructions d'immeubles nombreux de 10 étages. Donc, on va avoir une densité de population qui va surplanter celle du centre-ville d'ici 10 ans. Donc, j'aimerais savoir comment vous avez fait votre choix, pourquoi on améliore les conditions du centre-ville qui est déjà survolé plus haut par rapport à des gens qui sont survolés plus bas. Ça, c'est ma première question. Et j'aimerais savoir aussi, puisque cette dérogation qui vient de se terminer de 10 ans de désaxage de 13 degrés, donc elle se termine 10 ans, est-ce que celle que vous remettez en place, à notre grande surprise, est prévue sur une durée fixée également, qu'on sache à quoi s'en tenir? Nous, quand on a acheté sur l'île de Nantes, il n'y avait pas de survol d'avion du tout. Donc, nous, ça a été la surprise assez négative. Donc, c'est surtout par rapport à ce traitement, différence de traitement entre l'île de Nantes et le centre-ville que je voudrais vous entendre. Et c'est à peu près tout. Malgré que vous ayez dit que vous ne voulez pas opposer les populations selon leur quartier, mais là, visiblement, on ne peut pas y échapper.
Merci, monsieur Aignier. Monsieur Lacorde va vous répondre.
Oui, alors monsieur Meunier, merci pour votre question. Sur la question de la dérogation, je ne vous répondrai pas moi-même, je passerai tout à l'heure la parole à ma collègue de l'autorité de surveillance, madame Emmanuelle Blanc. Mais sur l'île de Nantes, alors j'entends ce que vous dites. Le bruit, moi, dont je parle, c'est un bruit entre guillemets réglementaire. Qui est défini par des textes. Et effectivement, sur cette base-là, on peut qualifier le bruit demain sur l'île de Nantes de faible. C'est un indice, comme on l'a indiqué tout à l'heure, qui est un indice moyen, calculé en moyenne sur la journée. Et même si on pondère par 10 le bruit de la nuit, c'est différent du bruit qu'on perçoit à l'oreille. C'est un bruit qu'on utilise pour réglementer les sols et puis pour évaluer finalement les effets de politique ou de mesures que nous envisageons. Sur la question précise des niveaux de bruit qui sont perçus, moi je souhaite vous dire que lorsqu'on fera les enquêtes publiques justement pour la modification des trajectoires, et aujourd'hui on n'en est pas là, eh bien, on aura fait des études beaucoup plus précises que ce que je vous présente aujourd'hui. Aujourd'hui, on est vraiment sur une réunion d'information assez large, enfin assez générale, pardon. Et donc, pour l'enquête publique sur la modification des trajectoires, vous aurez des études plus complètes avec un certain nombre d'indicateurs de bruit qui sont prévus là aussi par les textes et qui permettent de mieux représenter le ressenti que vous exprimez. Et peut-être d'ailleurs, je ne sais pas si mon collègue du service de navigation peut indiquer, donc Sylvain, les niveaux de bruit qu'on prend en compte dans les fameuses études de modification des trajectoires. Si tu as ça en tête. Sinon, on pourra répondre à monsieur par ailleurs ou mettre une information sur le site internet.
Oui, merci Johan. Donc, ce que je peux indiquer, c'est qu'effectivement, dans les enquêtes, les études d'impact de circulation aérienne, nous prenons en compte des niveaux de bruit instantanés, non pas des niveaux de bruit avec un indice Elden. Et c'est des niveaux de bruit de l'ordre de 65 et de 62 décibels.
Merci. Et je passe maintenant la parole à Emmanuel Blanc pour répondre à la question sur la dérogation. Emmanuel, tu es avec nous, tu nous entends?
Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je ne sais pas si vous m'entendez. Donc, Emmanuel Blanche, je suis la directrice de la sécurité de l'aviation civile Ouest.
Bonsoir Emmanuel, tu nous entends très bien.
Voilà, sur les éléments dérogatoires. Alors, c'est vrai que c'est assez complexe. La trajectoire désaxée, on va dire basique, qui s'appuie sur des moyens de radionavigation conventionnels, ne nécessite pas de dérogation. En revanche, il existe une trajectoire désaxée qui est exactement sur le même trait, on va dire, que celle dont je viens de parler, qui est basée sur une navigation satellitaire, dans le plan horizontal uniquement, sans guidage vertical. Pour faire ce type de procédure, basiquement, il faut que ce soit très peu désaxé. Donc, si elle est assez désaxée, comme c'est le cas de la procédure dont on parle, de près de 13 degrés, on peut estimer que c'est acceptable, donc donner une dérogation sous réserve d'un certain nombre de conditions. Donc, évidemment, on examine la sécurité de la procédure, mais généralement, une dérogation, on la soumet soit à une amélioration, soit elle est temporaire pour permettre qu'il y ait quelque chose qui vienne assurer encore plus de sécurité. Là, en l'occurrence, les différents niveaux de dérogation, je ne vais pas rentrer dans le détail, s'appuient sur le fait que c'est acceptable un certain temps parce qu'on va avoir un ILS qui va améliorer la sécurité et parce que dans l'avenir, cette procédure des accès, elle sera utilisée uniquement par conditions météorologiques favorables. Donc, on a effectivement quelque chose qui nous permet de durer jusqu'à la mise en œuvre de la procédure double approche avec l'ILS et la désaccès dans des conditions plus favorables.
Merci. On va du coup prendre, avant de reprendre d'autres questions qui seront posées à l'oral, on va reprendre des questions qui ont été posées via Slido, donc une série de questions. Donc, première question, pourrait-on préciser à quel moment les conditions météorologiques correspondraient à des conditions dégradées en atterrissage par le nord, donc dans le cadre de la double approche?
Alors, je lis, Maxime, toutes les questions.
Pour voir s'il y a des liens.
Voilà, l'atterrissage
des accès. Donc, la deuxième, c'est pourquoi l'atterrissage des accès face au sud ne se fait pas à 3,5 degrés. D'accord. La troisième, est-ce que les avions non commerciaux sont inclus dans le couvre-feu? Donc, question sur le couvre-feu. En particulier, les avions matinaux pour le fret. Et enfin, vous parlez d'approches satellitaires, en particulier les approches... Vous ne parlez plus, pardon, des approches satellitaires, en particulier des approches courbes. C'est peut-être un peu le lien avec
d'accord.
Qui vient d'être dit.
Merci Maxime. Alors, je peut-être quelques éléments généraux avant que je passe la parole à mes collègues Emmanuel et Sylvain que vous avez tous entendu tout à l'heure sur peut-être est-ce que les avions non commerciaux sont inclus dans le couvre-feu, en particulier les avions matinaux pour le fret. Oui, tous les avions sont concernés par le couvre-feu. Il n'y a pas d'exception. Le couvre-feu porte sur l'ensemble des compagnies aériennes, des avions qui opèrent dans l'Atlantique. La question, c'est est-ce qu'ils peuvent déroger au couvre-feu? Eh bien, ils le peuvent uniquement en cas de situation très exceptionnelle, un vol sanitaire, une évacuation sanitaire, un vol militaire, par exemple. Mais vous voyez, on est vraiment sur des cas précisément encadrés. Et donc, la règle, c'est quand même que la nuit, entre minuit et 6 heures du matin, eh bien, on n'utilise pas l'aéroport. Voilà. Sur la question des conditions météorologiques qui correspondraient à des conditions dites dégradées, alors moi, je ne sais pas vous répondre précisément là-dessus. On parle de seuils qui permettent de définir quelle trajectoire est utilisée, mais je vais passer la parole à mon collègue Sylvain Haric.
Oui, merci Johan. Donc sur ce point-là, les conditions météo seront définies par deux paramètres. Hein, un paramètre qui correspond quelque part à la hauteur des nuages, la base des nuages, au-dessus duquel les pilotes n'ont pas de vision sur le sol. Et un paramètre de visibilité, à un instant donné, jusqu'à quelle distance ils ont de la visibilité. Par exemple, par temps de brouillard, ça peut être très réduit. Et donc, ces paramètres seront 5000 mètres de visibilité horizontale et 1500 pieds pour la hauteur de la base des nuages, ce qui correspond à peu près à 500 mètres de hauteur pour les nuages. Voilà.
Merci Sylvain. Alors, il y a une question aussi sur les approches satellitaires et les approches courbes. C'est vrai que c'est un sujet sur lequel on avait déjà donné quelques éléments lors de la concertation préalable de 2019. Et donc, on avait effectivement évoqué cette perspective que sur du moyen long terme, de nouvelles approches satellitaires puissent être utilisées par les avions. Emmanuel, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces approches?
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, il y a plusieurs niveaux d'approches satellitaires, plus ou moins exigeantes en termes d'équipement avion et de formation des pilotes. Dans un premier temps, les procédures satellitaires qui existent déjà, c'est des procédures dans le plan horizontal. Il y en a une, il y en a d'autres qui vont être développées à moyen terme. À plus long terme, l'idée, c'est de développer les approches satellitaires avec du guidage vertical. Mais ça nécessite un niveau d'équipement supérieur. Ça veut dire que dans un premier temps, il n'y a pas une part suffisamment importante de la flotte de Nantes qui soit équipée. Donc, on ne pourra pas, dans un premier temps, avoir la totalité des vols qui voleront des approches satellitaires. Mais plus on avance dans le temps, plus c'est favorable. Et alors, à plus long terme, je pense que ce qui est évoqué avec les approches courbes, il y a effectivement des types d'approches satellitaires qui sont encore plus exigeantes, et là, pour lesquelles, je dirais que l'horizon qu'on envisage, il n'est pas forcément avant 10 ans. En revanche, pour ce que j'ai dit précédemment, on a quand même des visions plus favorables et on sait que d'ici quelques années, on devrait pouvoir développer quand même des approches satellitaires avec du guidage vertical.
Merci Emmanuel. Alors sur la dernière question qui nous reste, pourquoi l'atterrissage des accès face au sud ne se fait pas à 3,5 degrés? Effectivement, on vous l'a indiqué, nous avons conçu une trajectoire qui sera avec une pente d'approche de 3 degrés. Est-ce que Sylvain, tu peux nous dire pourquoi on est à 3 degrés et pas à 3,5 a priori?
Merci Johan. Donc en fait, avec la procédure désaxée, elle sera essentiellement volée sur des procédures satellitaires aussi, avec notamment une procédure qu'on appelle Barrow-Venav. Et sur cette procédure Barrow-Venav, la pente de la procédure est sensible aux variations de température. Et si nous partions sur une pente de 3,5 degrés par forte température, nous aurions une pente qui serait plus élevée que 3,5 degrés, et qui aurait des incidences sur la sécurité, notamment sur cette procédure des accès.
Merci Sylvain. Donc du coup, si je résume avec mes mots, mais en fait, le 3,5 degrés, moi j'avais en tête que c'était quand même une pente déjà assez élevée pour des trajectoires d'approche. Et comme là, on est sur la trajectoire des accès, l'enjeu finalement, c'est d'avoir une trajectoire qui reste des accès, mais avec une pente telle que finalement la sécurité soit garantie. Et c'est bien l'enjeu auquel nous veillons.